Bonjour et bienvenue dans cette émission dominicale de Brisons la glace, podcast français en Norvège. Nous revenons ensemble chaque mois sur les sujets de société, d'histoire et de tech, mais également tout ce qui peut faire l'actualité à Oslo et en Norvège. Et on enregistre aujourd'hui depuis chez Emma.
Bonjour, bienvenue chez moi.
Bonjour, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Eh bien aujourd'hui, comme d'habitude, je parle de high-tech, aujourd'hui je vais parler de low-tech.
Donc on n'ira pas plus haut, d'accord.
Ouais, je garde le mystère entier.
Roxane, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, et vous?
Parfait. Super. Et aujourd'hui, tu veux nous parler de...
Je vais parler des chimpanzés aujourd'hui, qu'une étude récente a montré qu'ils sont aussi ménopausés comme nous, les humains.
Ça arrive à tout le monde.
Voilà.
Surtout toi, ça va t'arriver.
Et ensuite, nous avons Suzanne. Bonjour.
Salut, salut.
Alors, de quoi as-tu prévu de nous parler?
J'avais envie de faire un récapitulatif de l'hiver qui a fait un petit coucou au début du mois de novembre, qui nous a bien saoulés.
Voilà. Il neige d'ailleurs en ce moment. Enfin, en tout cas, j'ai des flocons venant.
Si, on
confirme.
Il reneige aujourd'hui.
On confirme, il neige.
Et c'est une bonne fête aux papas norvégiens aujourd'hui.
C'est
ah
vrai
ouais
Ah, c'est la fête des papas norvégiens.
Tout à fait, ouais.
Ok.
Personne n'a de papa norvégien ici.
Non.
Je me demande s'ils ont fait ça parce que novembre c'est chiant. Donc il faut trouver un truc assez léger.
Je me suis dit la même chose.
On va mettre le jour de la fête des pères.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas vraiment des pays qui fêtent ça en hiver. Si je m'abuse.
Je ne suis pas un spécialiste de la
moi
fête
non plus,
ici. Comment on a Roxane.
Ah non, non, mais moi
j'ai spécialiste de la fête.
Oui, mais pas celle des pères.
En France, c'est pas en mai-juin la fête des pères.
Si, si. En fait. En Italie, je crois que c'est peut-être en mars. En avril, je sais plus.
Bref, ouais. Les Norvégiens ne font pas comme tout le monde.
Il n'y a pas de journée internationale du père ou de la mère, en tout cas. C'est un peu chaque pays.
Peut-être, mais je n'ai pas recherché. Il n'y a pas de date, en tout cas mondiale, de la fête des pères.
Ça viendra
peut-être. Je peux t'assurer.
Bon, en tout cas, si vous ne voulez pas fêter la fête des pères, il y a Noël qui approche.
Ah oui, bon, hein.
En passant du coup sur la place là, en face du Parlement, on avait ce petit marché de Noël tout mignon.
Je l'ai fait hier.
Ouais.
Il est top. Enfin, il est top, non. Je viens de Strasbourg, donc forcément.
T'as pris du vin chaud?
Non, j'aime pas ça.
Non?
J'aime pas ça.
Comme...
Bah, comment ça, je sais. Ouf.
Ah, ça viendra avec la
mettre
la
au bûcher, mais non. J'aime pas trop le vin chaud,
du coup, tu dois pas connaître s'ils ont l'équivalent du vin chaud sans alcool.
Ah
bon, ça s'appelle le glog.
Aucun intérêt. Hein,
Et moi, j'aime beaucoup le nom. Tiens,
le glog.
Si on prenait un glog.
Moi, c'est parce que ça pense au glog.
On va se gloguer.
Mais du coup, c'est quoi? S'il y a pas de
temps, du coup, c'est du jus de raisin avec de la cannelle.
Aucun intérêt. C'est juste pas bon.
Ouais,
quoi.
Et on trouve, tu vas pouvoir commencer à voir dans les supermarchés des mélanges pour glog.
Ah.
Je pense qu'il y a du cassis un peu dedans.
Ok. Ouais.
Je ne suis pas une spécialiste du glog, je préfère le.
Mais est-ce qu'il y a différents types de vin chaud? Est-ce que le vin chaud dont tu as l'habitude en France, tu penses que c'est la même chose qu'ici?
Bah, je pense que c'est un peu les mêmes épices que tout le monde met, non? Pardon. Je pense que c'est les mêmes
épices.
Mais
des amandes,
les épices de Noël.
Et des raisins secs dans.
Dans le vin chaud, il n'y a pas de raisins secs. Dans le vin chaud, non?
Bah non.
Non.
C'est dans le glog, mais le glog il peut être alcoolisé. Mais moi, je l'ai toujours bu alcoolisé, mais avec
amandes et raisins secs.
Les raisins secs, enfin qui sont plus secs du coup, mais bouts d'amandes.
Bah, je suis pas fan des raisins secs et les amandes, c'est pas ma passion non plus. Donc,
c'est pas mon truc préféré. Tu ramèneras pas de glog en France et puis.
Si, je pense pour Noël, tu vois, c'est une histoire de faire ramener un petit souvenir.
Je peux pas me joindre à ce débat-là, je viens d'un Picardie.
Avec le saucisson de Rennes, personne n'aime.
Ça, j'ai pris d'ailleurs, j'ai pris hier justement au marché, j'ai pris saucisson de Rennes, de baleine et d'élan.
Ouais,
baleine.
On a tous fait ça dans nos premières années
Exactement.
En Norvège. Oui. Bon, je te garantis pas que le succès va être au rendez-vous.
Non, mais c'est l'intention.
Oui, c'est l'intention, tout le monde va trouver ça, surtout les Français curieux
Exactement.
De la bouffe. Mais bon, voilà.
Non, mais je n'attends rien, c'est vraiment juste tenez, cadeau.
Je
reviens pas les mains vides.
T'as goûté avant d'acheter?
Ouais, j'ai goûté, c'est pas
Et alors
bon. Ouais, enfin, c'est du salami un peu déjà, c'est pas du saucisson, je sais pas pourquoi ils appellent ça du saucisson, c'est tout mou. Voilà.
Ouais.
Mais non, mais c'est pas très très bon. Voilà, j'ai pas adoré.
Non,
je sais pas vous.
Tu vois, en général, c'est un peu le.
Et surtout que le fait d'en manger et de savoir que par exemple c'était de la baleine, ça m'a.
T'as coupé.
Ah ouais, j'ai eu du mal.
Ouais.
Bah écoute, on n'a pas d'expert charcuterie autour de la table.
Pas encore.
Moi, je suis lyonnaise, donc je sais
pas. Ah oui, non, toute façon.
Non, mais la différence entre sauce. Ouais, mais saucisson, salami, c'est... où est la limite?
C'est dans la texture, non? Enfin, moi, c'est comme ça que je différencie plutôt. Saucisson, c'est
dans
plus sec.
Dans la façon de la, ou est-ce de que la curation, salami... je pense, parce que c'est des viandes qui ne sont pas cuites, les saucissons et les salamis.
Oui, c'est juste.
Donc, séché. Ça doit être les mélanges d'épices séchées, de la façon dont ça sèche.
Ok. Ouais, donc ce que je dis, c'est n'importe voilà. quoi. Non, je dis de la merde.
Pas. On sait pas, mais peut-être c'est moi qui dis de la merde. On n'a pas, on n'a pas.
On creuse
longtemps finalement ouais. avec ton BEP bouché.
Mon diplôme d'ingénieur en informatique, veux-tu dire.
D'ailleurs, si les auditeurs qui sont effarés par nos propos, n'hésitez pas.
À réagissez.
Oui, excusez, si jamais.
Corrigez-nous s'il vous plaît.
On crée un peu de polémique pour attirer de l'audimat. C'est une stratégie. Alors, est-ce que personne n'a de voiture ici? Si.
Oui, bah oui, moi j'ai une voiture.
Bon, est-ce que tu as une Tesla?
Je sais pas encore. Si j'ai rêvé d'avoir une Tesla, mais non, j'ai une vieille Volvo de
Super.
2001.
C'est mieux.
Mais c'est un beau break V70, franchement. Moi, je trouve qu'il y a du charme dans la voiture, en tout cas.
Ouais, c'est juste que galère, quoi. Oui. C'est l'hiver, là, ça commence à piquer un peu, quoi. Ouais.
Donc, tu n'as pas de Tesla, eh bien, tu as fait le bon choix. Parce que du coup, en Suède, ça commence un peu à chauffer. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a la société d'Elon Musk qui est en train de négocier des conventions collectives. Donc, dans la vie syndicale, la vie sociale, ça définit un peu les conditions de travail, les conditions de rémunération dans un secteur, dans une entreprise. Et Tesla, du coup, refuse de signer les conventions collectives. Ce qui est
Tiens donc
qui est obligatoire à faire, et ils refusent de faire ça en Suède. Donc on a des garagistes qui rentrent en grève ouais. en Suède, et ils ont été rejoints récemment par les dockers, donc les garagistes d'abord refusent de réparer des Tesla. Maintenant on a les dockers qui refusent de délivrer les Tesla qui arrivent en bateau,
oh, effectivement,
dans certains ports de Suède, et ça risque de faire contagion du coup dans d'autres ports de Suède, ouais. et aussi en Norvège. Bon, en tout cas, ce qui se joue en ce moment là, c'est plutôt les rapports que veut avoir Tesla avec les différents syndicats. Donc, on a cette grève qui est en cours, et ce qui fait que si votre Tesla tombe en panne en Suède, vous avez très peu de chances de vous la faire réparer.
Mais tu sais en quoi consiste la convention qui va pas signer ou pas ?
Je ne suis pas rentré dans le détail, mais moi, ce qui me posait la question, c'est est-ce que du coup en Norvège, on peut réussir à bouger sans voiture ?
Tu es dans une grande ville comme Oslo, tu n'as pas besoin de voiture.
Oui, je pense que c'est le même problème qui se pose. De la ville à la campagne. À la campagne, c'est impossible. Mmh. En ville, c'est très facile pour nous de faire attention, de ne pas avoir de voiture, d'utiliser les billes collectives, d'utiliser... Moi, je n'ai pas de voiture. Mmh. On a le permis. Quand on a besoin d'une voiture, on en loue une. Voilà, on fait du car sharing, on fait des choses comme ça. Mmh. Mais effectivement, pour nous, c'est facile. En plein centre-ville, à 50 mètres du métro, à distance à pied, évidemment, dans les campagnes, sans voiture, je ne sais pas trop comment on fait.
Après, je pense que si t'es patient, de toute façon, même si tu vis pas en centre-ville, il y a des bus, il y a des trains.
Ouais, mais ils sont pas. Enfin, pour les avoir pris quelques fois moins que vous, j'imagine. Je les ai pas trouvés pratiques. Je les ai pas trouvés. Enfin, ils sont. Il y en a pas tout le temps. Enfin, je sais pas.
En France, c'est pareil.
Mais ça coûte cher aussi. Ça coûte une blinde.
Ouais, mais t'as vu en France le prix des TGV et des trains.
Mais enfin, un TGV et un TER, c'est pas la même chose. Un TER, tu payes pour faire un Niscan, par exemple, je paye 5 balles. Ici, pour aller faire une demi-heure de train, c'est 30 euros, quoi.
Ah bah, pour faire Niscan, on paye 5 euros.
Ouais,
ah
ouais,
donc ça, c'est quand t'as encore la carte 12-25 ans.
Enfin, c'est un TER, tu vois, c'est 20 minutes de train. Là, pour 20 minutes de train, une demi-heure de train pour aller dans la petite campagne à côté d'Oslo.
Et ça combien le pass, ça s'appelle encore le pass Navigo à Paris, les RER, c'est cher.
C'est 80 balles par mois, ouais, ça c'est cher.
Ouais, ouais,
moi, je trouve que c'est l'équivalent. C'est pas vraiment des TER, c'est plus des RER, les trains de banlieue.
Oui, c'est ça qu'ils vont à Olmia en un quart d'heure ou à Chine.
Paris n'est pas forcément le meilleur exemple là-dessus, effectivement. Mais je veux dire, à Strasbourg, il y a même d'autres villes en France qui veulent mettre en place et qui ont déjà mis en place un système de services de transport en commun gratuit. En tout cas, le week-end.
Ça,
et tout.
Ouais, les Norvégiens en rêvent. Hein,
ouais.
Surtout à 4 euros le ticket, on en rêve. Hein,
ouais. Et qu'ici, c'est quoi? C'est 45 balles. C'est quand même 45 balles par mois pour 30 jours pour les étudiants. Après, on a quand même accès à toute la zone 1, donc on peut aller sur les îles gratuitement aussi.
Ouais.
Oui, pas que, tu vas hyper loin avec la zone d'assurance. Ouais, ouais, hein, mais dans des grandes banlieues déjà.
En dehors de ça, le ticket, c'est super cher aussi. Non, le individuel.
Après, ils ont un système qui est pour le coup intelligent. Je trouve qu'ils ont mis en place la rue Terre, c'est le discount au fur et à mesure que tu prends des tickets. Ouais, moi, je suis arrivée à 26% de réduction là.
Ouais, non, mais c'est pas mal. Après, le truc qui fonctionne pas, c'est les trajets courts, comme tu disais. Si tu prends juste un trajet de 5 carrés, ça te, ça, c'est le même prix.
Non, mais c'est ça qui est très énervant.
Tu dois traverser toute la ville.
Clairement.
Là, moi, ça m'arrange hein, parce que je dois aller à Béquestua depuis Furuset. Ça me fait une heure de transport, mais c'est zone.
Oui, alors que moi, qui veux aller à Jernbanetorget, nous sommes à Teuyen. Donc, c'est deux stations de métro, c'est rien du tout.
Ouais.
C'est 3 minutes, on parle de 3 minutes de métro.
Ouais.
Et bim, ça coûte. Coûte
et à pied, c'est combien? Enfin, c'est combien de temps?
20, une bonne vingtaine.
Ouais, ok. En plus, quand il fait froid, c'est relou, quoi.
Donc 3 minutes versus 20.
Oui, c'est le choix est vite fait.
Mais c'est vrai que ça peut être énervant de payer ce prix pour 3 minutes de transport. Ouais.
Et pour revenir au Tesla, je sais que quand je suis venue ici, j'avais des collègues qui avaient des Tesla. Et quand l'hiver est venu, ils avaient le choix entre avoir leur voiture à moins 5 à l'intérieur ou la démarrer. Donc c'était il fallait qu'ils aient le
j'en avale mon eau.
Non mais ils pouvaient pas avoir le chauffage s'ils voulaient que leur voiture démarre. Et en fait la batterie a utilisé toute l'énergie pour réchauffer le Donc il y a des matinées où mes collègues ayant une Tesla n'ont pas pu venir au boulot.
Car elle était trop gelée, quoi.
Donc du coup, tu dis, pourquoi la Tesla marche autant dans un pays où, quand même, ça gèle pendant de nombreux,
mais
nombreux jours, quoi.
On en reparlera avec mon sujet low-tech, mais c'est vrai qu'on arrive à un moment où, là, si on regarde en France ce qui s'est passé avec les inondations, etc., on a parlé de plus d'un million de personnes sans électricité. Ça a duré pour 300 000 personnes, peut-être 3-4 jours, et des gens dans des maisons où tout est électrique. Moi, j'avais des exemples de la famille en Bretagne, justement, genre à la pointe bretonne, là où la tempête, elle a fait des gros dégâts. Des amis de ma famille, ils avaient des volets électriques. Ils ont vécu 4 jours dans le noir. Ils n'avaient pas de gazinière, ils ne pouvaient pas faire à bouffer. Lumière à la bougie, évidemment plus rien, plus aucun chauffage, plus aucun. En fait, on arrive à un moment quand t'as pas de cheminée, t'as pas de gazinière, des volets électriques, à force de devenir tout high-tech.
Et pas de lumière, c'est compliqué. Là.
Ouais.
D'être dépendant à une seule source d'énergie, ça.
Et voilà, et c'est là qu'on se rend compte un peu des limites. Genre, moi, ma famille, ils étaient là, mais on a une gazinière, ils ont pu continuer de faire à manger avec leur petite fille, machin, et les quatre.
Parce que tu fais quoi? Tu sors le réchaud?
Et voilà, sinon tout le monde couché à 20h. Ouais, mais encore, faut avoir un réchaud.
Moi, j'en ai pas du tout.
Moi, j'en ai pas, je campe pas, j'ai pas de réchaud, quoi, tu vois.
T'es pas prête pour l'apocalypse?
Mais non,
je suis pas prête du tout. Justement, alors nous, on disait, si tout se coupait ici, là, en plein cœur d'Oslo, j'ai de la chance, j'ai une cheminée, par exemple.
Elle est magnifique, d'ailleurs. Mais pour les autideurs, très, très belle cheminée.
Mais bon, on pourrait pas tellement cuire. Je sais pas combien de temps un œuf prendrait à cuire sur la cheminée, mais... Bref, on serait bien dans le caca. Attention à la tech.
Mais tout le monde, je pense, on ne se rend pas forcément compte. Tu te rends compte seulement quand tu n'as plus accès à l'électricité, combien tu vis autour de ça, quoi, combien tu es dépendant de ça.
Ouais.
Et c'est pareil pour les Tesla. À Oslo, ça va handicaper pas mal de personnes, si jamais ça arrive jusqu'en Norvège.
Ça fait effet boule de neige.
Ouais, parce qu'il y a tellement de Tesla. Il y en a partout, j'en vois 10 par jour.
Mais est-ce qu'il y a des discussions de la sorte en Norvège? Est-ce que ça commence à un peu... Parce que les syndicats sont quand même assez forts en Norvège. Est-ce que tu as lu...
En Suède aussi. En Suède aussi.
Pourquoi ça a pris feu, entre guillemets, Suède et pas ici?
Parce qu'en fait, c'est le modèle social scandinave qui a risque. Enfin, ce qui se passe, c'est que c'est qu'on a des syndicats qui sont normalement forts, qui négocient, toutes les entreprises acceptent de signer les conventions collectives qui sont négociées entre syndicats et entreprises. Et là, on a une entreprise, pour le coup, Tesla, qui refuse de le faire, et c'est assez exceptionnel. Et vu que Tesla, ça risque de prendre une entreprise qui risque de prendre de l'ampleur dans le monde... ce qui est en jeu, c'est le modèle social scandinave. En fait.
Elle risque pas, elle est déjà en train de prendre de l'ampleur.
Oui. Mais ça va être encore plus gros dans les années à venir,
ouais,
sûrement. C'est donc c'est un peu déterminant pour le futur.
Tu penses que ça va carrément mettre en clash c'est où
ça peut faire effet de... Oui, puis après, on a des grosses entreprises comme Spotify, je crois, en Suède, qui aussi rechignent à signer ces conventions collectives, en fait. Donc,
mais quel poids ont les pays scandinaves... Oula, j'ai du mal. Quel poids ont les pays scandinaves là-dessus, sur l'entreprise? Sur Tesla, par exemple. Bah, est-ce que vraiment ça peut avoir un impact?
Un boycott, quoi.
Ça, peut au moins montrer à d'autres syndicats en Allemagne où les négociations syndicales, les négociations salariales se passent de la même manière que c'est possible de résister, en fait.
Okay.
Donc c'est pour ça qu'ils reçoivent autant de soutien maintenant de la Norvège et aussi du Danemark. C'est parce qu'en fait, ils savent qu'il y a quelque chose qui joue en ce moment en Suède.
Okay.
Oui, sachant qu'aussi en Norvège, quand on est propriétaire d'une Tesla ou d'une voiture électrique, pendant des années, on ne payait pas les péages, on ne payait pas les autoroutes. Voilà, on a encouragé toute la population norvégienne à s'équiper là-dessus.
Et il y a des gens qui ne paieront jamais le chargement électrique de leur Tesla, parce que c'était offert dès le début, en fait. Il y a des personnes qui ont acheté Tesla avant 2015, je crois, ou 2018, et en fait, ils ont recharge gratuite.
Donc en fait, ça devient rentable rapidement d'acheter une Tesla, quoi.
Ouais, ouais.
Ça devient pas rentable, parce que je ne sais pas si c'est rentable. En plus, dans la ville, non ?
Ouais, parce que vu le prix, quand même.
Mais c'est les recharges.
Ouais, mais c'est les recharges.
C'est pas la charge à la maison, mais la plupart des gens, je pense qu'ils chargent à la maison, quoi.
Enfin, je veux dire, si t'as des recharges gratuites, tu te débrouilles pour pas le recharger chez toi, quoi.
Parce que la Tesla, si tu la charges chez toi, il faut avoir une capacité électrique énorme. Et par contre, sur la route, tu as ce qu'on appelle les superchargeurs, où tu charges ta Tesla de 500, maximum, en une demi-heure, plein de charge. Ouais. Alors que tu vas laisser ta Tesla une nuit entière, genre dans ma maison en Bourgogne, sur l'électricité locale, tu auras peut-être chargé 30% en une nuit entière.
Ah ouais, d'accord.
Donc on est, il faut aussi, ça demande une technologie incroyable de pouvoir charger ces voitures-là aussi.
Affaire à suivre, donc.
Ouais, exactement. Oui.
Et vu qu'on parle d'électrique, on va parler de chimpanzés.
Super, transition.
On ferait pas une petite pause musicale?
Carrément.
Parce qu'au final, avant on marchait avec nos jambes, on était plus proche du singe.
Exactement. Voilà.
Tu voulais une pause musicale?
Ouais, pour un peu...
Pour nous aérer,
un peu, et puis pour apporter un peu de groove à cette matinée neigeuse.
Oui. Donc,
qu'est-ce que tu vas nous passer, alors?
Alors, je vais mettre un hymne LGBT, car on est LGBT-friendly dans cette émission, n'est-ce pas? Romy, She's on My Mind, qui déclare sa flamme, et qui, en même temps, que nous la déclare pour qu'on passe une bonne journée. C'est parti.
Et nous continuons avec un nouveau sujet qui a été choisi par Roxane. Et tu veux nous parler du coup de ménopause chez les chimpanzés.
Exactement. Alors j'ai reçu une notification sur mon téléphone il y a à peu près 2 semaines, disant les chimpanzés sont aussi ménopausés. Donc ça m'a... j'ai été très intriguée. Donc selon une récente étude publiée dans la revue Science vendredi le 27 octobre, les chimpanzés femelles sauvages sont aussi ménopausés. L'observation a été réalisée par l'équipe de Kevin Langer-Graber de l'Université de Californie à Los Angeles, l'UCLA, grâce à des données collectées pendant 21 ans sur la communauté de Ngogo, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, ou Gogo juste, à un groupe de plus de 200 chimpanzés installés dans le parc national de Kibale en Ouganda. Selon les calculs réalisés par les chercheurs, les femelles passeraient en moyenne 20% de leur vie adulte dans un état post-productif, entre guillemets, donc ménopausé. Plus précisément, pour leur étude, les chercheurs ont examiné les taux de fertilité et de mortalité de 185 femelles entre 1995 et 2016. Ils ont également étudié leur statut hormonal pour être certains que ce n'était pas une maladie qui entraînait la stérilité chez toute la génération de femelles chimpanzés âgées. Et pour réaliser l'expérience, ils ont prélevé des échantillons d'urine de 66 femelles. Conclusion, les tendances observées suivaient celles des femmes humaines en période de transition ménopausique. Il y a deux interprétations possibles à cette étude. La première s'appuie sur le fait que les animaux sauvages en captivité ont de longues vies post-reproductives lorsqu'ils sont protégés des prédateurs et des maladies. Il est possible que les chimpanzés de cette population évoluent dans des conditions anormalement favorables, comme une absence de léopards par exemple, qui ont été chassés jusqu'à l'extinction dans cette région. Et la seconde fait l'hypothèse qu'il s'agit bien d'une population historique non influencée par des changements provoqués par les humains. Dans ce cas, selon Brian Wood, les scientifiques doivent revoir leur théorie sur la ménopause. Brian Wood est aussi à travailler sur la recherche, parce que je sors un nom comme ça de nulle part.
Mais... Oui, j'allais dire c'est autant un... d'Arwiz.
Oui, c'est...
Là, j'y étais.
Non. Elle a aussi travaillé sur la recherche. Et donc les scientifiques doivent revoir leur théorie sur la ménopause si c'est bien juste sur une population. Et en effet, chez les chimpanzés, les femelles quittent la communauté au sein de laquelle elles naissent, tandis que les mâles qui restent se reproduisent avec de nombreux partenaires, d'où le fait que c'est juste une population particulière. Et donc les auteurs de l'étude souhaitent à l'avenir se pencher sur la même question chez les bonobos, qui sont avec les chimpanzés les espèces du règne animal les plus proches de l'être humain.
Ah oui, j'allais dire, de toute façon, la théorie de l'évolution est une fois de plus prouvée.
Exactement. Voilà, c'est tout pour moi.
Ouais, c'est intéressant.
Si vous avez des questions ou quoi, je ne sais pas y répondre.
Ouais, quelles sont les autres ressemblances des animaux avec les humains?
Donc, est-ce que tu peux revenir un peu sur les symptômes? Est-ce que c'est très similaire
Alors, les symptômes, je n'ai pas trouvé, parce que je ne pense pas qu'on puisse vraiment savoir quels sont les symptômes d'un animal, enfin, qu'est-ce qu'il ressent émotionnellement. Je ne sais pas si les chimpanzés ont des bouffées de chaleur, par exemple, ça. Ouais. Mais je sais que ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il y avait une sorte de syndrome de la grand-mère, entre guillemets. C'est-à-dire que, peut-être dans l'hypothèse, le chimpanzé, la chimpanzé femelle, pourrait avoir ce réflexe aussi, à partir du moment où elle est ménopausée, de ne vivre que pour la survie et le bien-être de ses petits-enfants. Donc il y a ce truc-là aussi. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et les seuls autres animaux dont on est au courant, dont on sait qu'ils ont la ménopause, sont certains cétacés. Par exemple, les orques aussi sont ménopausés, il me semble.
Okay.
Ah, les orques sont ménopausés.
J'ai cru
croire
ça. On
est plus proche des orques que ce qu'on croyait,
ouais,
finalement.
À vérifier, parce que je sais que j'ai vu orques dans un article, mais certains cétacés sont ménopausés aussi. C'est les seuls autres animaux qui sont.
Ouais. Que l'on sache.
Que l'on sache, effectivement.
Ouais. Non, mais c'est super intéressant.
Ouais.
C'est vraiment l'une des premières enquêtes où on s'intéresse à la ménopause.
Ouais. Après, je ne sais pas si ça a été... Complètement. Je ne sais pas où j'allais dans ma réflexion.
Donc c'est un mec qui a conduit l'étude, du coup, c'est ça?
Il
y a au moins le directeur de recherche.
Exactement, le directeur de recherche.
D'accord.
Enfin, l'équipe de Kevin Langer.
Comme par hasard, j'ai envie de dire, pardon.
Ouais, non, mais
c'est toujours des hommes.
C'est vrai.
Enfin, tu vois, entendre des hommes parler de ménopause, ça me...
Mais je ne sais pas si vous avez vu passer ça.
Bien sûr qu'on a vu, c'était sur
BFM
ou je ne sais pas quoi, un gros sujet sur la télé française. Genre un gros plateau BFM télé, je crois que c'est BFM
et tout. Ouais.
Donc on va parler de la ménopause. Et donc il y a 6 hommes pour parler de la ménopause.
C'est
un sujet qu'ils maîtrisent complètement.
Mais peut-être qu'il y a des femmes. Après, là, c'est aussi l'étude a été faite, donc on peut être reconnaissant de ça, même si c'est un homme qui l'a faite. Et je pense que dans l'équipe, il devait y avoir des femmes aussi.
Oui, parce que je me dis, on doit avoir une parité qui, pas une parité, on commence à avoir, je pense, un pourcentage de femmes qui doit être croissant parmi la population scientifique.
Après, ça a commencé en 95 études.
Ouais, d'accord.
Ouais. Super longue étude.
C'est vrai que
J'étais
pas né.
Ouais. mais
je me demande si. C'est vrai qu'on a plus de ressemblances ou d'affiliations avec les chimpanzés, mais il y a quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont des hormones? Parce que je vois
pas
pourquoi ils ont
une spécialité. Okay.
Par exemple, les mammifères, il y a toujours une période de, en tout cas chez les chats par exemple,
chez les chiens,
toute la période de reproduction là, de
en chaleur et tout. Moi je trouve ça, les hormones c'est quelque chose qui me dépasse, dans le sens où il y a aussi une différence, par exemple chez les êtres humains, chez les femmes, chacune a un taux d'hormones différent. Et ça se ressent en fonction quand on a notre cycle qui démarre. Je sais que par exemple, moi j'ai un taux d'hormones, je pense, assez élevé en fonction de comment je réagis face à mes règles, quels sont mes symptômes, mais aussi quelles sont mes émotions. Et je trouve ça dingue qu'on puisse avoir aucun impact dessus et qu'on ait toutes quelque chose à un taux d'hormones différent. Moi ça me passionne d'en discuter avec mes potes comme ça. Et toi tu ressens quoi quand t'as tes règles? Toi tu ressens comment? Et que je sache en fonction de ma sensibilité à. une vidéo que je vais bientôt avoir mes règles.
Moi, ce que je trouve ça, ce que je trouve dingue avec l'expérience, ouais. c'est à quel point on oublie que c'est ça qui nous rend.
Mais c'est un truc, mais attends.
Qui nous rend irritable, mais ouais, nous rend super mais... relou, insupportable.
Il y a aussi un j'ai vu.
Moi, je me... c'est moi qui me supporte le moins.
Complètement.
Plus que les autres.
Non, mais enfin, je veux dire, vraiment...
c'est pas. Non, quand vraiment, ces jours où t'as envie de t'oublier toi-même, là, c'est... si tu putain, pouvais parler à quelqu'un d'autre plutôt que d'être là,
ouais,
toi-même,
clairement.
Tu vois, genre, tu t'énerves toi-même.
On se rend compte quand même que les meufs qui ont leurs règles, on passe 10 jours par mois à être des versions différentes de nous-mêmes. 10 jours par mois, donc
oui,
un tiers de notre
à se demander
de
si on n'est pas dépressif.
Les yeux interloqués de Valentin.
Non, mais t'as de la chance, tu te rends pas compte. Toi, tous les mois, tu te demandes si t'es pas dépressif
ouais,
ou bipolaire.
Exactement. Si tu grossis en plus, t'as l'impression d'être obèse tout le temps.
Oui, c'est ça, tu te sens mal,
tu te sens
pas gonflé.
Ouais. Et t'es, donc la confiance en toi baisse. Et il y a aussi, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux qui disait que l'attraction, enfin non, pas du tout, le taux d'attractivité d'une femme varie aussi en fonction de son cycle. Donc c'est-à-dire qu'on est plus belle une certaine période du mois. Et moins belle une autre période du mois. Donc on n'est même pas les mêmes personnes physiquement, quoi. On n'est pas en fonction évidemment.
Oui, tu peux être plus ballonné.
Ouais, là, il doit y avoir encore aussi une question de phéromones qui doivent exploser des moments où.
Quand tu peux être enceinte, c'est qu'on peut t'enfanter.
Tu te déplaces avec ton gaz là qui attire tout le monde.
Ouais. C'est vrai que tu sais ce qui manquerait. Il manquerait une stratégie pour hacker tes règles. Tu vois, de dire de tel jour à tel jour, regarde tes caméras cachées de François Damien.
Ouais,
parce
c'est
que ça.
Ça
va pas du tout.
Non, mais clairement. Je suis désolée, mais je...
Remotive-toi, cette semaine-là, prends soin de ta peau, machin.
Ouais, non, va marcher, va écouter Romy.
Vraiment ouais. Tu vois, voilà. Moi, je pense qu'on sous-estime largement l'impact des règles sur la vie d'une femme. Vraiment. Et je pense que c'est aussi une des grandes différences qu'il y a et qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes d'une certaine manière, parce que c'est ce qui nous différencie et c'est ce qui, l'impact de la confiance en soi, l'interaction qu'on a avec les autres peut dépendre de notre cycle. Et donc, aussi notre envie de travailler, notre envie d'être active, d'être productive, etc. Moi, il y a 5 jours par mois où j'ai envie de voir personne et je te gifle si tu me parles. Tu vois?
Alors laissez-moi
que...
tranquille.
Exactement. Que et qu'à ce moment-là, regarde Roxane un petit peu, genre, waouh.
Non, mais j'ai fait mon coup de gueule, là.
Genre,
j'ai bien fait en Amérique, d'ailleurs, c'est pour ça aussi.
Je veux dire, elle est gang.
Mais je veux dire, imagine, t'as un gros truc qui arrive, une conférence, il faut que tu protèges, enfin, pardon, présente quelque chose et t'as tes règles ce jour-là. C'est 1000 fois plus dur. Si t'as des règles douloureuses, c'est...
Mais tu sais ce que j'ai envie de te dire ouais. Je pense que ton corps sait que t'as ta présentation hyper importante et qu'il va s'adapter à ton niveau de stress de la préparation.
Ouais.
Et il va peut-être te décaler...
Moi, je pense que ça peut faire l'effet inverse en plus, tu vois. Plus t'es stressé, plus ton corps te dit « Ok, t'es stressé, je te tue encore plus derrière, tu vois. » Tes ovaires,
ouais,
la
parle pas, fait ça, ouais, je suis parfois. Assez d'accord avec
peut-être.
Roxane, moi.
Ça dépend de comment tu te sens, mais donc c'est vraiment chaque femme est différente aussi là-dessus. Et donc, tu peux avoir des douleurs de règles et saigner, mais des chutes du Niagara. Et t'es là, tu dois faire une présentation devant 500 personnes, comme si de rien n'était. Tu vois. Enfin, c'est quand même dingue.
Mais pense, moi, là où j'ai toujours eu beaucoup de compassion, c'est pour les sportives de haut niveau.
Putain.
Oui, alors,
parce que là, pour le coup,
c'est encore un autre sujet.
C'est encore un autre sujet.
Parce qu'elles perdent leurs règles de trop d'intensité sportive. Du coup, les règles diminuent largement.
Ah, tu vois, la coach sportive.
Oui. Et puis même
ouais, non, mais c'est assez connu. Après, ça dépend des disciplines. Mais souvent, les athlètes hyper entraînés, enfin les professionnels, ça leur affecte leur cycle.
Mais c'est bon signe, c'est pas bon signe.
Ah, c'est pas bon signe.
Ouais, c'est pas bon signe, ouais. Donc c'est peut-être aussi
quand tes règles s'arrêtent, c'est un gros symptôme
l'anorexie,
ton corps
aussi,
par exemple.
Ouais. Moi je pourrais en parler des heures, hein. Je sais pas vous, mais on va s'arrêter
et
là.
Et toi Valentin, tu sens que ton état de
non en soi aussi
dans le mois.
Moi je vais bien tout le temps.
Connard. Pardon. La chance.
Tu sens que les mecs ont aussi des moments de.
Ouais c'est clair.
Ils ont envie de se dans la confrontation. Ouais. Ou...
Demander à un être qui n'a pas l'habitude de parler de son ressenti, de parler de son interrelation avec son corps.
Non, mais est-ce que tu observes dans la société tes collègues dans la rue, des mecs qui.
Est-ce que des fois, par exemple, tu regardes ta collègue de travail qui a l'air un peu relou et tu te dis, bah tiens, elle doit avoir ses règles. Un truc un peu.
Ouais,
non, je parlais
vrai,
des mecs envers les mecs.
Les deux sont intéressants.
Ouais. Est-ce que je sens qu'il y a un cycle chez les mecs
ouais, une sorte. Quelque chose de similaire à ce qu'on dit là.
Ah, c'est une question. Dans l'instant, je vous dirais non. Mm-hmm. Je perçois pas de cycle. Après, ce qui est entre guillemets intéressant en fait chez les femmes, c'est que finalement, on vient de parler des règles. Le fait que ne pas avoir ses règles, c'est une alerte sur son état de santé. Les hommes, tout être humain, on va trouver des symptômes que ça va pas. La fatigue, le mal de tête, j'en sais rien. Mais je pense que le fait de pas avoir ses règles, c'est vraiment quelque chose d'alarmant.
Ouais.
Et on n'a pas. Je dirais que chez les mecs, on a pas ce signal d'alarme grave qui nous dit qu'on va trop loin, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Donc, ouais. C'est ça qui. C'est ce que je me disais quand tu parlais de. Et on n'a pas du coup finalement cette limite.
Absence totale de libido, c'est pas un.
Ouais, aussi, mais en soi, les mecs n'ont pas leur érection.
La libido, c'est pas quelque chose qui revient régulièrement.
Est-ce que le sportif peut avoir des absences d'érection à cause du sport de haut niveau, par exemple?
Oui, parce que.
Peut-être, mais c'est pas un cycle. Je veux dire, les règles, tu sais que ça va arriver à un moment.
Le jour où t'arrêtes d'avoir des érections, tu t'inquiètes aussi quand même, non?
Alors, personnellement.
Je l'ai pas eu haute des périodes basses.
Il faut dire que Valentin est tout rouge là.
Non, mais je peux parler de libido, mais c'est juste. Ouais. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas de cycle en fait. Je vais pas te dire toutes les deux semaines.
Oui.
J'ai la table qui soulève. Non,
parce que les hommes ont leurs hormones également, la testostérone et
encore. Bien sûr. Par contre, il y a un cycle en fait quotidien chez les hommes. Du coup, vous ne vivez pas la vie d'un homme au réveil.
Oui, c'est vrai.
Peut-être que vous connaissez. Et du coup, le matin, il y a quelque chose qui se passe. Du coup, il y a une érection, là, on va dire. On vient de dire règle, je vais pas me cacher pour dire érection. Peut-être que ça pourrait être un signal d'alarme aussi. Ouais.
Vous savez qu'en plus, les hommes ont environ une dizaine d'érections par jour, en plus. Mais par contre, les femmes aussi ont des érections. On bande aussi avec le clitoris. Voilà, je sais pas si vous saviez, mais on bande aussi. Les femmes, ça se voit juste pas, c'est pas la même chose.
Ça se voit beaucoup moins.
Ça se voit beaucoup moins, mais en soi, je pense que ça peut aussi. Je vais dans l'hypothèse. Mais peut-être qu'on bande aussi comme les hommes, juste ça se voit pas, donc c'est pas la même chose. Effectivement, si je vais devant la classe et que je bande, ça se voit pas, quoi.
Oui, mais peut-être qu'à la fois, notre corps a une autre façon de le montrer physiquement, comme on dit, d'être un peu plus.
Donc la prochaine fois, Roxane nous parle d'éjaculation féminine.
Avec plaisir.
Je pense qu'on va monter en mode
par les culs.
Une émission spéciale sexe prochainement dans Brisons la glace.
Prends ça de BFM TV.
Du coup, on va mettre un petit morceau sexy avant de repasser aux
choses sérieuses.
C'est le choix de Roxane.
Oui, Ma Quale Idea de Pino Danza, c'est une chanson disco italienne que j'écoutais mes trajets en voiture quand j'allais à Milan quand j'étais jeune. Je connais par cœur, elle est top.
Excellent choix. Quale idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea, quale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è. Che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea, quale idea. Attento lei, lunga la sala, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che dai?
De retour sur Brisons la glace, où on a eu le podcast et débat sur les chimpanzés, sur la ménopause chez les chimpanzés. Et maintenant, nous allons parler, aussi très difficile de trouver une transition là-dessus, mais de Nansen.
De Nansen, c'est qui ce Nansen ?
Explorateur norvégien, vous avez sûrement déjà entendu parler, peut-être pas.
Non,
non,
malheureusement.
Bon, est-ce que tu as déjà parlé, entendu du Fram Museum ?
Non plus.
Non plus ?
Moi, j'y suis allée.
Après. Ouais.
C'est pas, t'en avais parlé dans une émission avant ?
Non, mais ça fait partie des musées qui sont à Big Doy.
Qui valent le coup.
Des vikings, quoi, voilà. Classique.
Alors, raconte-nous tout.
Avec ces toilettes formidables, Fram.
J'ai pas vu les toilettes.
Écoute, c'est sur leur brochure.
D'accord.
Mais t'as pas vu les toilettes ? Mais t'as tout manqué.
Il y a certaines années, moi, je suis allée au Fram juste pour leurs toilettes. Incroyable.
Ah, mais on recommande vivement les toilettes.
Mais le Fram, c'est bien là où ils font les aurores boréales à l'intérieur du musée.
Oh, mais ça fait longtemps que je suis pas allée. Pour moi, le Fram, du coup, au moins, il y a un bateau dans le Fram Museum.
Oui, c'est ça. Mais tu peux revivre un peu les aurores boréales.
Peut-être, oui.
Enfin, bon, bref. Et voilà, et dans leur brochure, ils parlent de leur toilette. Ce qui m'avait...
Ils sont vraiment spéciaux,
autant
alors.
Vous dire... j'avais emmené ma mère, je lui ai dit, il faut qu'on aille aux toilettes.
Je sais que t'es venue de France,
c'est
mais
dans
là,
la brochure
que je te montre quelque chose.
C'est dans la brochure, apparemment, leurs toilettes sont incroyables.
Tu le savais
si
pas.
Vous cherchez un guide local, appelez Emma.
Voilà.
Pour visiter les chiottes.
Des toilettes d'Oslo.
Alors, Nansen, connu pour avoir connu du coup en tant qu'explorateur de l'Arctique et aussi pour ses engagements diplomatiques et dans une moindre mesure politique. Alors, situons-nous quand même à la fin du 19e, parce que c'est là où Nansen va naître et va commencer à faire ses gros coups. Donc, à la fin du 19e, on commence à avoir une espèce de petite course à l'Arctique qui se met en place. Alors, l'Arctique, c'est encore un territoire assez inexploré, mais il y a un peu de croyances dessus. Donc, on pensait notamment qu'au pôle Nord, on avait une mer qui était liquide, donc pas gelée. Et on y voyait une opportunité, en fait, pour relier plus rapidement l'Atlantique et le Pacifique.
Ça a toujours la course à réduire les trajets.
C'est ça. Mais on retrouve la même chose aujourd'hui, en fait, finalement. Sauf que maintenant, on a des bateaux nucléaires, il y a des brise-glaces nucléaires, je crois, qui avancent et qui cassent la glace. Hein.
Et puis bientôt, il n'y aura plus de glace, quoi, finalement.
Oui, voilà.
Ce sera problème réglé.
Donc finalement, on avait cette recherche du coup de route la plus courte, et on avait aussi les flottes militaires européennes qui finalement cherchaient un moyen de se former, de faire des gros coups, parce que les guerres napoléoniennes sont terminées depuis à peu près 30-40 ans. Il y a une recherche chez ces soldats, chez l'armée, de faire des gros coups et de se former dans des conditions extrêmes. Donc voilà, l'Arctique, ça attire pas mal l'attention, et on a du coup ce fameux Nansen qui est né en 1561. Dans la région d'Asker, donc on n'est pas loin d'Oslo, qui est à la fois très intéressé par différents sujets. Nansen, c'est une personne qui a d'abord été étudiant en zoologie. Ensuite, donc il a été explorateur, donc comme j'ai dit, il était diplomate et politicien, mais aussi il a été conservateur d'un musée à Bergen et chercheur en neuroanatomie. Donc il s'est intéressé au système neuronal, je crois, de la baleine. Apparemment, donc on peut le décrire comme polymathe, donc qui veut dire qu'il s'intéresse à différents sujets. Ouais. Et on a aussi cette attirance pour lui pour les sports d'extérieur. Donc on va le retrouver à faire du ski dans la région d'Asker. Il a notamment battu un record en ski de fond, record du monde en ski de fond, au début de sa jeune carrière de sportif. Bon, le sport, du coup, sera mis un peu de côté parce qu'il va se consacrer beaucoup aux études. Et en 1887, lui vient l'idée de la traversée du Groenland, donc d'est en ouest, pas du sud au nord, mais d'est en ouest, ce qui est déjà pas mal. Et son expédition, elle va suivre l'expédition de deux autres explorateurs, un sino-suédois et un autre américain, Robert Perry. Et ces deux expéditions ont été vaines. Donc, du coup, Nansen va essayer de faire une traversée réussite. Et de ces deux expéditions qui ont échoué précédemment, donc du finno-suédois et de l'américain, il va en déduire plusieurs choses. C'est que faut que ce soit une opération sans retour, parce qu'apparemment, ces explorateurs, ils avaient construit une espèce de petite base, et ils essayaient de se lancer vers la traversée, et finalement, ils revenaient vers cette base, ce qui faisait beaucoup de contraintes logistiques, finalement, à l'arrivée. Aussi, il fallait partir avec très peu de monde. Donc il va privilégier une équipe assez restreinte de 8 personnes. Donc on va retrouver notamment des Samis dedans. Et c'est des personnes qui sont notamment aguerries au ski et aux conditions de météo extrêmes. Et enfin, il faut que ce soit une opération, comme je le disais, sans retour. Donc il faut qu'il parte. Il va décider de partir de l'est du Groenland, qui est une côte assez difficile à approcher, vers l'ouest du Groenland, qui est davantage habité. Du coup, il pourra trouver refuge à l'arrivée de sa traversée. Les voilà. Donc ils vont ici choisir de faire une traversée en chien de traîneau. En luge et en ski de fond. Et les voilà partir du coup en juin 1888 depuis un port islandais. Et ils vont mettre à peu près 2 mois pour arriver en bateau sur la côte est du Groenland. Donc les voilà partis, donc ils sont déchargés, donc ils débarquent du coup sur la côte est du Groenland et ils vont décider de se lancer vers une traversée de 600 km, ce qui est un poil trop long pour eux, compte tenu des délais qu'ils avaient et du stock de nourriture. Donc ils décident de raccourcir un peu l'expédition et d'arriver un poil plus au sud de leur point de leur choix. Ce qui n'en fait pas moins une expédition très, très dure, très extrême. Donc on parle de température qui descend à moins 40 degrés, d'altitude atteinte de 2700 mètres.
Oh putain. L'enfer.
Oui, oui.
Ils ont choisi, hein.
En même temps, ouais,
c'est complètement consentant.
C'est pas Saint-Tropez, quoi.
Et surtout, à l'arrivée, ils se sont rendus compte que effectivement leur point d'arrivée était pas très loin, mais en fait, il fallait traverser un fjord. Donc, ils ont réussi à transformer leur traîneau en bateau.
Oh putain.
En kayak, plus précisément.
Et bah.
Et ça en a fait.
Attends, mais c'est en quelle année?
C'était en 1888.
Ah ouais, ils étaient quand même débrouillards, quoi.
Ouais.
Et on parle d'un voyage de
49 jours. Quand t'as plus le choix, tu deviens créatif.
Vous n'avez pas de téléphone, il fallait se débrouiller.
Donc, on parle du coup d'un voyage de 49 jours. Ils arrivent le 12 octobre 88. Et le dernier bateau pour la Norvège, en tout cas le dernier bateau régulier qui passait là, et finalement en partie. Donc ils vont devoir attendre le 15 avril pour pouvoir repartir. Bon, c'est une zone habitée, du coup ils trouvent refuge auprès des
avril. Ils ont fait la fête, quoi.
Voilà, ils trouvent refuge auprès des Inuits. Ça va en fait, ça va être très utile pour la suite. Ils vont apprendre en fait leur technique pour vivre dans de conditions extrêmes, comment se couvrir, enfin quel peau d'animal il faut pour se couvrir, se protéger du froid, comment bricoler ce qu'on a finalement à portée de main dans le Grand Nord. Et ça va être l'occasion pour Nansen de rédiger un livre à propos de ça. Et maintenant, Nansen, une fois de retour en Norvège, donc considéré comme un héros par les Norvégiens, parce qu'il faut savoir que pour cette expédition, pour le Groenland, personne n'y croyait. Ouais. Il y en a qui pensaient qu'il partait sur une expédition suicide. Le Parlement, le Parlement refusait même de financer en fait, son expédition, même si c'était un Norvégien qui se lançait dans un record du monde.
Okay.
Bon, finalement, il a gagné un peu de confiance de la part de ses compatriotes. Mm-hmm. Et là, il va se lancer dans une autre expédition qui est la conquête, la conquête du pôle Nord. Aucune personne n'a réussi à atteindre le pôle Nord jusqu'à maintenant. Et là encore, on a des expéditions qui ont tenté, mais qui ont échoué. Et la dernière expédition en date, c'était l'expédition du bateau Jeannette. C'est un bateau américain qui a subi deux problèmes majeurs qui vont être très utiles à savoir pour Nansen. Alors d'abord, le bateau en fait s'est fait piéger dans la glace, de notre point de vue est assez attendu, oui. Mais encore une fois, à l'époque, ils pensaient qu'on n'avait pas forcément une mer gelée dans le pôle Nord. Mm-hmm. Donc il s'est fait piéger par la glace. Le bateau a cédé sous la pression de la glace et il a coulé. L'équipage a entre-temps réussi à fuir,
okay.
Donc on a des survivants qui ont réussi à noter les coordonnées géographiques, comme ils pouvaient à l'époque, du bateau. Et en fait, on a retrouvé les restes du bateau, de l'épave, près du Groenland. Sauf qu'en fait, le bateau, il avait coulé en Sibérie.
Ah putain.
Wow.
Donc ça veut dire en fait qu'il y a un courant
qui ramène
l'eau, notamment l'épave, de la Sibérie vers le Groenland.
On parle de combien de kilomètres entre la Sibérie et le Groenland à peu près?
Je sais pas, 2000.
Ah oui, quand même.
Je dis ça au pif. Hein. Quelques années après. Donc en fait, on est sur une dérive longue. Okay. Ça prend du temps. Il y a un courant, mais il met un certain temps. Hein.
Faire une série Netflix là-dessus. Hein.
Mm-hmm.
4966
km. 4900.
Ah oui, d'accord.
Donc en fait l'idée de Nansen, c'est de se dire bon bah très bien, quitte à se faire piéger par la glace, on va en profiter. Donc l'idée de Nansen, c'est de concevoir un bateau qui est le Fram, du coup. Qui veut dire aller de l'avant en norvégien d'ailleurs. Et un bateau qui est conçu pour se faire piéger par la glace, c'est-à-dire que sous la pression de la glace, il va non pas couler, enfin se faire exploser et couler, il va plutôt se surélever,
okay.
Une coque à peu arrondie. Ça donne l'allure d'un bateau un peu ballonné en fait. donc le bateau, et l'idée c'est de se faire du coup dériver avec la glace jusqu'à l'approche du pôle Nord. Et quand ils estiment qu'ils sont assez proches du pôle Nord, bah là ils pourront. Partir avec l'équipement, enfin ski de fond, chien de traîneau et tout y couti.
C'est un gros pari, quoi.
Ouais.
Bah oui, mais c'est dans le scène. Alors le voilà donc parti avec le Fram et son équipage de, je crois, 10 personnes en juin 1893. Donc le Fram va arriver à la hauteur là où le Jeannette a coulé. Et ils vont essayer de se faire piéger par la glace et de dériver. L'idée, c'est de se faire dériver, de se laisser dériver pendant 2 ans. Donc on se retrouve avec le bateau finalement qui passe plus loin du pôle Nord que prévu. Et du coup, Nansen choisit de partir avec une autre personne en chien de traîneau, en ski, pour atteindre le pôle Nord à la marche, enfin la marche ou en ski. Et ils savent déjà que en fait, la prochaine fois qu'ils reverront le Fram, ça ne sera pas en fait, sur la banquise, ça sera à Oslo. Parce qu'ils savent que le Fram va prendre de la distance, il sera impossible à retrouver. Du coup, ils se disent, bon, bah, en fait, on va atteindre le pôle Nord et on va revenir vers... Alors, il y a des îles qui s'appellent Franz Josef Land. C'est des îles russes qui ont été récemment découvertes en 1893. On dit, on va arriver là, on va survivre ici, on va aller au Svalbard. Et au Svalbard, c'est habité.
Ah, ma géographie me trahit.
Aucune idée.
Je vais imaginer qu'ils sont près du pôle Nord, ils vont descendre...
Quelle est la distance entre le Groenland et le pôle Nord et Svalbard?
Bah après, entre le pôle Nord et le Svalbard,
ouais.
Alors j'arrive pas à dire, mais en tout cas, faut dire qu'il y a de la glace en fait. Donc, je sais pas que ça communique, mais en tout cas, bref.
Il y a moyen quoi.
Du coup, ils vont descendre du pôle Nord vers les îles qui sont des îles qui sont situées d'abord au nord de la Russie, et ensuite en ramant, ils vont pouvoir atteindre les Svalbard.
Vraiment. J'allais dire des têtes
1020
brûlées, mais non.
1020 km.
Je me permets de, ouais, ouais. De...
Donc entre pôle Nord et Svalbard.
Ouais, la distance qui sépare le sud du Spitzberg du Cap Nord Scandinave est de 637 km, alors que les îles les plus au nord de l'archipel, les Chuoyane, les 7 îles, ne sont qu'à 1020 km du pôle Nord.
C'est le Spitzberg ou le Svalbard?
C'est la même chose.
C'est la même chose. Ah, c'est un nom.
Ouais. Et.
Gros, on est perdu.
Je comprends rien.
Ah, c'est le grand nord norvégien. Donc voilà, les deux héros qui quittent le bateau. Le Fram est donc piégé par la glace en mars 95. Il décide de quitter le bateau avec les chiens de traîneau et les skis.
Comme prévu.
De partir vers le Grand Nord. Donc ils avancent sur la glace, forcément. Ils se rendent compte qu'à un moment, c'est pas possible, c'est pas jouable. Ils sont pas assez équipés, ils sont trop lents. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que la glace sur laquelle ils sont dérive.
Ouais.
Donc en fait, même s'ils font un kilomètre sur la glace, bah, peut-être qu'ils avancent juste de 500 mètres, parce que la glace dérive vers le sud.
Ah ouais, le... Pfff. Dur quoi.
Donc bref, finalement ils disent bon bah tu sais quoi, on va rentrer. Donc forcément comme prévu,
c'est quoi, on va abandonner,
on se rentre,
on va pas aller à sa soirée. Donc le Fram lui continue à dériver, ils vont pas pouvoir le rejoindre. Ils arrivent à la fin de la glace, ils arrivent à rejoindre en kayak donc les fameuses îles au nord de la Sibérie, Franz Josef Island. Mais bref, ils arrivent du coup sur ces îles en juin 95, donc ça fait 3 mois qu'ils ont quitté le Fram. Ils survivent sur cette île, donc ils construisent des refuges. Donc c'est là qu'en fait toutes les connaissances qu'ils ont accumulées avec leur pote inuit leur sert. Ils vont se construire un refuge et ils vont rester jusqu'en mai 96, donc à peu près un an en fait, sur ces îles-là à survivre, donc sans personne. Et finalement, jusqu'à ce que la météo soit clémente et permette du coup de naviguer jusqu'au Svalbard en kayak. Parce que là encore, ils utilisent leur traîneau pour faire. Ils avaient pris avec eux des kayaks sur leur traîneau. Donc à un moment, ils décident de partir en kayak jusqu'au Svalbard. Attaque de morse. Ça arrive.
C'est particulier quand même. Ça n'arrive pas tant que ça, non. Mais
parce que le morse, je savais pas que le morse était féroce, quoi.
Bah ouais, c'est pour ça.
Bah en tout cas, ils ont pris les kayaks comme un grand
ouais,
poisson.
Ouais.
Et est-ce que les orques on la ménopause aussi?
Peut-être. C'est de mauvaise humeur et que trop d'hormones peut-être.
Genre
c'est ça.
On y va là. Ça peut être une combinaison de pas mal de choses. Hein. Ça peut être aussi ils nous envahissent, on va les attaquer, on a faim, ça peut être plein de trucs. Quoi.
Mais du coup, ils vont faire étape pour réparer leur kayak. Et c'est là qu'ils ont un coup de chance en fait dans leur malheur. C'est qu'il y a une expédition navale anglaise qui passe à ce moment-là.
Comme par hasard.
Ils arrivent à les retrouver. Et du coup, ils sont sauvés par cette expédition. Et on va se retrouver. Ils vont pouvoir rentrer en Norvège, enfin, une île qui s'appelle Vardeux. Et bref, au même moment, en fait, le Fram est libéré des glaces. Parce que le Fram continue à dériver pendant que. Et finalement, ils vont pouvoir se retrouver à Tromsø, tous ensemble, en août 96.
Et alors, ils vont
arriver à Oslo ensemble en septembre 96, où ils vont être célébrés par toute la foule. Ça fait 3 ans en fait qu'ils sont partis d'Oslo.
Qui n'ont pas réussi à atteindre le pôle Nord.
Ils n'ont pas réussi à atteindre le pôle Nord, mais ils ont quand même réussi. C'est quand même l'homme à l'époque qui était le plus au nord. Les deux hommes sont allés du coup le plus au nord par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et après, je crois que c'est Robert Perry, encore une fois, un américain, qui va réussir à atteindre le pôle Nord.
Quelle épopée!
Et bah putain, non, c'est très intéressant. Et
ouais. Ça c'était pour la partie explorateur de Nansen. Après, il y a toute une vie aussi diplomatique. C'est un peu trop long. Mais bref, il s'engageait diplomatiquement et politiquement, avec une petite zone d'ombre parfois.
Donc un explorateur norvégien très courageux.
Ouais, finalement, ouais.
Ouais, et on peut du coup visiter le bateau, le Fram, qui est finalement un bateau super. C'est un peu leur tour, c'est un peu la tour. Enfin, je sais pas l'équivalent qu'on pourrait avoir pour la France, mais c'est un.
Ouais, c'est quelque chose quoi.
C'est un peu une navette spatiale comme pour les États-Unis quoi.
Et le musée est à Oslo.
Le musée est à Oslo sur Big Dœil.
Ok.
Et le Fram, c'était intéressant parce que en fait finalement ils savaient qu'ils allaient partir pour 2-3 ans d'expédition, 10 personnes dedans, fallait savoir se mettre bien.
Ouais, c'est ça.
Donc il y avait des choses qui étaient pensées pour le bien-être des passagers finalement.
Ok, bah j'irai voir le musée. Très intéressant.
Ses toilettes.
Oui, n'oubliez pas d'aller aux toilettes du Fram. Hein, moi, c'est mon seul grand conseil parce que l'expérience des aurores boréales du Fram était un brin décevant. On va pas se mentir.
Ok.
Si vous espérez.
Est-ce qu'il y a des aurores boréales quand t'es sur les toilettes?
Non, c'est ce que j'avais espéré, mais en fait pas du tout. Et puis bon, de toute façon, le spectacle naturel est tellement dingue que maintenant c'est pas possible de le refaire ça artificiellement en fait. Peut-être en VR.
On va faire une petite pause musicale.
Ouais, avec le choix de Valentin pour illustrer ses propos.
J'ai choisi la musique Currents de Steel Corners.
Here I cry.
Brisons la glace. Et de retour sur Brisons la glace. Alors, on a parlé de Nansen et ses explorations dans le pôle Nord. Alors, à Oslo, la température baisse. On n'est pas au point de Nansen non plus. On n'est pas sur des moins 40. Mais,
heureusement.
Mais en tout cas, l'hiver arrive et on peut en avoir, gros parfois.
Pas vrai, trop sur la patate.
Ah, mais grave, j'en ai voulu Roxane, mais tellement. La dernière émission. Ah non, mais j'ai hâte qu'il neige. Non, mais vraiment, ça va être chouette. J'ai envie de me péter la gueule sur la glace. J'ai hâte.
Je me suis tapé des barres en faisant ça. Je me suis arrêtée dans ma cuisine, j'ai regardé les gens se casser la gueule. C'était très marrant.
Et donc, on se dit, bon, ben voilà, Halloween, ça, on va avoir un peu de répit. Et ben non. Juste avant Halloween, il s'est mis à neiger, et pas qu'un peu, plus 15 à 20 cm. Alors peut-être que dans le centre-ville, vous n'avez pas eu trop de neige.
Oh, si, quand même, quand même. Ça n'est pas resté très longtemps.
Mais alors, de mon côté, de ma banlieue de Surucette, c'était la catastrophe pendant 3 jours.
À Kringsha aussi, oui.
Oh, et là, je me suis dit, mais je suis vraiment pas prête pour l'hiver, quoi. Mais vraiment la neuneu, quoi.
D'ailleurs, tu reprends l'accent du
sud.
Quand tu dis ça,
vraiment pas prête.
Je suis vraiment pas prête. Ça va pas être possible. La neige, là, moi, je viens du sud.
Ah non, mais incroyable. Alors, on a acheté l'an dernier à Furucette et j'avais déjà remarqué que mes voisins étaient quand même hyper prêts, tu vois. Et notamment un de mes voisins, que j'appelle Monsieur et Madame Parfait, quoi. À chaque fois que je passe devant chez eux, ils ont tout nickel. Et j'étais trop dégoûtée, tu vois. Genre, au mois d'août, mi-août, ils ont déjà leur stock de bois. Non, mais il faut se calmer, quoi.
Ils ont des petits tocs, hein.
Ah ouais,
c'est pas normal.
Hyper bien rangé, avec la bâche qui protège.
Ils travaillent ou pas? Ils ont un truc à faire dans leur...
Mais je ne sais pas.
Je me permets. Je les critique, j'en profite.
Bon, mais ça va. Alors après, donc ils ont fait leur stock. Donc nous, de toute façon, on n'avait même pas de place pour mettre notre bois. Donc on était dans la merde. Donc déjà, ça, on n'a pas du tout préparé l'arrivée du froid. Et là, ils ont même changé leurs fenêtres pour parce qu'on a comme un chez à l'extérieur. Donc comme ça, ils sont bien isolés. Hein, voilà, ils sont prêts. Nous, pas du tout. Il fait froid, -3 dans le truc. Bref. Et ce jour-là, quand il a assez bien neigé, c'était un lundi, et je vais tant bien que mal à mes cours de norvégien du lundi. Et en revenant, ma copine me dit, est-ce que tu peux passer à coupe ou je sais plus quoi, n'importe. J'étais à pied, je dis bon bah je vais prendre le bus. Et là je prends le bus qui ne s'arrête pas du tout. Où est-ce qu'il fallait qu'il s'arrête? Parce que la neige.
Ah, putain.
Donc ils sont allés en mode tout droit. Ouais. Et je lui dis mais non, en fait c'est impossible d'atteindre ce... C'est pas possible.
C'est une quête impossible.
Je ne peux pas aller acheter de la peinture maintenant, c'est pas possible. voilà, et puis je reviens, je repasse devant chez Monsieur et Madame Parfait, qui avaient bien déblayé leur allée.
Évidemment.
J'étais là, mais vous arrêtez jamais, quoi.
D'ailleurs, est-ce qu'ils se sont équipés de ce petit robot? Un robot déblayeur.
Une Roomba de neige.
Ouais, ouais. J'en avais pas parlé dans mon shopping parce que je me souviens l'avoir vu quand je faisais les recherches. En tout cas, tu as des petits robots au même titre que tu as la tondeuse. Tu as des petits robots déblayeurs de neige.
Parce que moi, j'ai vu les machines là où c'est comme la tondeuse à gazon, mais qui...
Oui, c'est ça.
C'est pas petit robot alors.
Non, mais c'est pas un truc du coup autonome.
Ah non, mais ça existe en petit robot.
Un petit robot peut faire face à de complètement... la neige norvégienne.
Oui, alors
comme
platement
à la ramasse.
Peut-être pas 40 cm qui tombent d'un coup, hein, mais.
Ah non, mais donc du coup, voilà, donc je marche genre, en grosse galère. En plus, il n'est pas si froid que ça, mais quand même, les premiers moins 3.
Ouais. Ouais, ouais.
Et il avait bien déblayé son allée. Je sais, nous, on n'avait rien déblayé du tout. Enfin, une catastrophe. Où est-ce que je veux en venir? Du coup, ouais, les Norvégiens, ils sont toujours prêts, quoi.
Bah, non, c'est pas vrai, parce que là, sur ce coup, j'ai l'impression quand même, il y a eu je sais pas combien de métros en panne, de lignes de bus coupées.
Il y a des gens ici qui ont pris l'avion,
genre, on a l'impression
exemple,
d'être à Paris avec 2 gouttes de pluie et de neige, où là, d'un coup, la ville s'arrête.
Ouais.
Et
alors,
on passe 3 heures dans les embouteillages et c'est fini.
Et non, alors moi. J'avais besoin de la bagnole. Est-ce que Bibi, elle a fait alors... changer les pneus d'hiver? Pas
encore.
Du tout.
Mais parce qu'en même temps, c'est pas, c'est fin octobre, c'est pas, on est pas censé neiger.
Mais non, mais à partir du... Ils préconisent le 15 septembre.
Et c'est même d'ailleurs, toi qui as une voiture, c'est même obligatoire de changer tes pneus.
Oui, mais moi, je pensais, tu vois, bon, bah, octobre, c'est bon, quoi, il va pas neiger. Et bam, fin octobre, il neige.
Parce que vu qu'il a neigé un jour d'un coup et qu'il n'a pas reneigé depuis, sauf aujourd'hui, en soi, moi, je me suis dit, bon, je sais pas, c'était un truc de passage comme ça, donc c'est normal que c'est pas été prévu.
Ouais, ouais, et du coup, 15 septembre, j'en ai pas. Alors après, du coup, est-ce que si tu changes tes pneus d'hiver le 15 septembre et que tu les mets le 15 juin, tu utilises tes pneus d'été, genre 3 mois, quoi.
Je sais pas, mais j'aimerais bien raconter ce qui m'est arrivé cette semaine. Donc
dis-nous tout.
Voilà, pleine nuit, 2h du matin, je vais me coucher. Oui, je suis sortie, je suis allée voir des concerts et tout ça. Oh. Donc je rentre, là je me couche. Oh zut, j'ai oublié de fermer le store. J'avais aéré comme tous les jours à ma petite chambre. Et donc là je ressors de mon lit. Et là je fais ah ! Une guêpe. Je parle du 9 novembre 2023. À 2h du matin, j'ai marché sur une guêpe vivante.
Putain.
Donc, bon, qui titubait, elle n'avait pas l'air hyper en forme.
Bah ouais, ouais.
Moi, encore moins. Parce que je suis allergique, aussi, donc du coup j'étais pas hyper contente. Là, de... voilà. Mais surtout, j'aimerais que quelqu'un m'explique comment une guêpe peut être encore vivante après un épisode de neige en Norvège. Après le froid là, qu'on a quand même depuis...
T'as pas un nid de guêpe chez toi?
Ben non, mais par contre, je peux vous dire qu'un triple doigt de pied, c'est un peu chiant pour mettre des chaussures. et que du coup... ouais, voilà, moi j'aimerais quand même qu'on explique. Je pense que c'est le réchauffement climatique.
Ah, mais la saison, il n'y a plus de saison.
Tu vois, il neige et en même temps, tu te fais piquer par une guêpe. Tu marches sur une guêpe dans ta chambre à 2h du matin en pleine semaine, comme
ça. Mais moi, en décembre l'année dernière, bon après c'est dans le sud, donc voilà, il y avait des moustiques dans ma chambre. Donc j'ai dû mettre le ventilateur pour faire sortir les moustiques de ma chambre, quoi.
Alors moi, comme j'ai dû partager mon malheur, là, parce que j'étais quand même très étonnée avec
le
doigt de pied et tout ça, justement, j'ai une amie marseillaise qui m'a répondu qu'elle continuait de se faire piquer par les moustiques tigres à cette époque.
Ah putain, bah oui. Bah oui, enfin moi, c'est pas pareil l'année dernière, en décembre.
Non, mais il n'y a plus de saison.
Non, voilà.
Donc en hiver, j'ai envie de dire, méfiez-vous des guêpes.
C'est ça, toute l'année, en fait.
Je pensais
le conseil de Brison la glace.
Changez vos pneus le 15 septembre.
Et faites gaffe aux guêpes qui traînent dans votre appart en plein mois de novembre.
Ouais, elles sont en mode incognito, quoi.
Ah, et puis elles sont en mode vénère, quoi.
Bah ouais, enfin, tu m'étonnes.
Ouais,
je sors
mon dard.
Non, mais du coup, l'histoire de changer les pneus, parce qu'en plus, je devais utiliser ma voiture le week-end. Et du coup, là, pendant 3 jours, on s'est dit, on avait pris un rendez-vous pour changer les pneus le vendredi. Et jeudi, il se remet à neiger. Je dis, non, mais ça va jamais fondre avant vendredi.
Non, mais on est où là ?
Non, mais on est où ?
J'accepte pas, moi.
Et puis finalement, dans la journée de vendredi, il s'est remis à faire beau. Enfin, beau. Il a plu pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et en fait, toute la neige a fondu une voie royale qui m'a permis d'aller au garage, de changer les pneus d'hiver pour après avoir une semaine de redoux. Mais c'était vraiment chaud, quoi. Ouais, non, je me dis, ben, Et d'ailleurs, j'ai vu un post Facebook, comment on fait pour changer ses pneus d'hiver chez les Français de...
Tu prends ton cric.
Et tu te démerdes.
Est-ce qu'il faut en acheter des pneus ou pas? Je dis, oui, il va falloir que tu les achètes.
Oui, mais ça devient enfin obligatoire, ce qui est quand même aberrant. Genre, t'habites dans les Alpes, bah, c'est pas obligatoire d'avoir des pneus neige. C'est pour ça qu'on retrouve chaque année des abrutis pendant les vacances qui sont coincés sur la route entre Grenoble et la montagne sans pneus neige.
Ah bon, ça neige dans cette région.
Ah, on va à la montagne. Bah non, on n'a pas prévu. Bah oui, en même temps.
Ouais. Donc j'ai appris que il est recommandé
la troisième fois.
Il est recommandé de changer ses pneus d'hiver à partir du 15 septembre, mais que si on a des pick deck, donc les pneus à clous, on ne peut les mettre qu'à partir du 1er novembre.
Oui, et tu payes plus cher si tu es en pick deck dans la ville aussi.
Voilà, une taxe sur les pneus.
Ah oui, parce qu'en fait ça défonce complètement les routes.
Oui.
Et donc du coup il crée une poussière d'ailleurs de dingue, donc ils essayent de bannir les pneus cloutés pour remplacer par des pneus neige ou des chaînes, je pense qu'ils sont un peu moins qui détruisent moins la route. Mais d'ailleurs quand vous marchez dans Oslo la nuit, on entend une grosse différence de bruit entre un pick deck et
Et puis même d'être dans la voiture avec des pneus à clous, c'est vraiment C'est fort, quoi.
Donc voilà. Voiture bref, électrique plus voiture non électrique et plus.
Ah, ben bah là, pollution double et. Ouais.
Ouais.
Mais du coup, je me demandais, Roxane, c'était comment, toi, cette première neige norvégienne est-ce que, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu étais prête? Est-ce que tu es dans la phase.
Alors, wow. J'ai haï et adoré en même temps, parce que j'aime pas trop la neige ni le froid de manière générale. Donc, j'ai bien fait de venir ici.
T'as choisi comment ton Erasmus?
J'avais pas le choix. C'est pour ça que je suis là.
Je suis forcée.
Non, mais en soi, non, c'était top. Enfin, j'ai adoré, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la neige, parce qu'à Strasbourg, il neige comme ça, donc c'est pas la première fois, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette neige, donc ça m'a fait plaisir, ça m'a rendu un peu nostalgique.
Est-ce que le campus est devenu fun?
Non, alors là, par contre, le campus, c'était chiant, parce que j'avais vraiment juste peur de me casser la gueule. Par contre, bataille de boules de neige à la sortie du bar, ouais, très sympa, ça, c'est très marrant. Et c'est vraiment ce que je disais avant, c'est qu'avec ma coloc, on s'est posé dans notre cuisine avec un thé, littéralement, et on a vraiment regardé les gens se casser la gueule, parce qu'à Kringsha, quand tu arrives pour accéder à ton appartement, il y a une pente sans marche, donc c'est vraiment du suicide total. Et c'était glacé, donc nous, on a réussi à développer quelques techniques pour pas se casser la gueule, même si ma coloc est tombée devant mes yeux. C'était très drôle. Donc on s'est posé comme ça, et j'ai hâte qu'il reneige et qu'il regèle pour que je puisse faire la même chose.
Moi, j'ai un petit conseil. C'est une espèce de... il faut trouver une sorte de stabilité un peu pingouin, genre genoux limite fléchés, et genre on marche ski, comme ça. Non, avec les genoux un peu fléchés, genre bien stable. Bien stable, pingouin.
Prêt à partir en arrière.
Oui, voilà. Surtout se pencher plutôt vers l'avant.
Ok.
Toujours en ayant un peu cette démarche, un peu pingouin, quoi. Ouais. Vraiment une stabilité, c'est comme quand tu fais des squats, quoi.
Ouais, ok.
T'es là, tu marches, genre t'es en full contrôle de tes jambes et de tout ça. Donc c'est ça, et ou puis, les crampons.
Et puis les gros conseils aussi, c'est de réduire tes marches.
Ouais, enfin, c'est faire des petits pas, quoi.
Ouais, des plus petits pas.
Okay. Bah, histoire de limite pas décoller tes pieds du sol, en fait.
Tu peux, mais en fait, faut pas faire des grandes enjambées, parce que là, c'est le moment où tu peux basculer. Et abaisser son centre de gravité, avoir ses mains disponibles, parce que là, les mains complètement avec le téléphone, là, tu...
Tu meurs.
Finir avec un œil au beurre si tu glisses, quoi. Tu vois, t'as pas pu te protéger par les mains, et bim.
Ce qui est marrant, c'est vraiment, on sort du métro, donc il y a plusieurs escaliers et plusieurs pentes, parce que c'est vraiment mal foutu pour ça. Et c'est, tu regardes autour de toi, tout le monde pense la même chose, et pour tout le monde, c'est une épreuve. Donc on est 20 personnes à sortir comme ça du métro, on s'agrippe aux rampes pour ne pas se casser la gueule des marches, donc on est vraiment à la queue leu-leu, et c'est marrant parce que vraiment tu remarques, on est tous en train de se chier dessus à l'idée de tomber, et il y en a évidemment trois qui tombent.
Sauf les Norvégiens que tu vas voir passer normalement plutôt confortablement.
Ouais, c'est vrai aussi, et qui sont, en plus les Norvégiennes sont en hug, donc la chaussure à la main.
Oui, mais moi j'ai vu des filles mois de février avec une ville glacée au sol, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans une patinoire dans toute la ville. Et là, tu vois ta copine de Tromsø, donc la bonne norvégienne et tout, en talons.
Quoi ?
En plein mois de février, t'es là, méchant, mais meuf, mais je t'admire jusqu'à la fin de mes jours. En fait, quelle est ta technique ? Comment tu fais ?
C'est normal, je marche.
Oui, voilà, t'as un équilibre naturel sur la glace.
Les lois de la glace ne s'appliquent pas.
Ou les lois de la glace ne s'expliquent pas, alors que tu mets les mêmes chaussures à une parisienne dans Oslo, je pense qu'elle fait pas long feu.
Ah non, je pense pas.
Porter les talons, c'est déjà non de base.
Déjà à Oslo, vu les pavés, trous dans la route.
Ah non, c'est clair. Bon, après, ça.
Non, mes chevilles ne survivent pas rien qu'à l'idée de porter des talons.
Non.
Ah non, moi j'en ai pas ramené.
C'est plus très féministe, apparemment. C'est Catherine Deneuve qui s'est
qu'elle s'est
plaignée.
Qu'est-ce qu'elle a dit ?
Parce que de moins en moins de femmes portent de talons.
Elle trouve ça triste.
C'est triste.
Merci Catherine pour cette remarque.
Si n'importe quelle personne qui a porté des talons a vécu ce moment où t'es là, je vais mourir.
Ouais, pourquoi j'ai mis des talons aujourd'hui ?
Pourquoi j'ai mis des talons ? J'ai trop mal aux pieds, j'en peux plus.
Ouais,
moi je l'ai vu.
Tu marches lentement en plus.
Ouais. J'ai fait un séjour à Helsinki il y a hyper longtemps.
En talons ?
Non. c'était une de mes premières expériences à moins 15. Et je voyais effectivement ces nanas dehors en talons.
Mais quoi comme talons ?
Hein ?
Des talons comment ?
Ah bah bien haut.
Genre des bottes avec des talons épais.
Non, pas des bottes.
Des escarpins genre.
Escarpins.
Et pas aiguille ou bouton, j'ai pas vu encore.
Ouais, ok.
Je me suis dit là, les lois du froid ne s'appliquent pas. Elle était en jupe, en mini jupe collant. Ça, et moi j'étais en triple quoi. Et je me dis mais moi je me caille et je te regarde, je ne comprends pas.
Non mais c'est dans la tête.
Et je pense que c'est peut-être le degré d'alcool qui peut-être s'annule avec le froid, qui permet de ne pas avoir froid, mais d'avoir quand même un peu de réflexe.
Donc finalement, drunk, c'est la réalité scandinave.
Ouais. C'est ça. Peut-être qu'elles sont trop habituées. Ah, ouais. Peut-être que ça leur fait rien.
Ouais, c'est ça.
Donc, bon, bah, je sais pas comment ça s'est passé pour vous, chers auditeurs, ce début de. Cette petite bande-annonce. Pour vous, cet hiver, la neige.
Bien, merci bien.
On peut faire une petite parenthèse.
Ton petit morceau illustratif, un classique.
Oui, allez, vas-y, on envoie nos
classiques. Marie-Lou sous la neige de Gainsbourg, réconfortant et doux à la fois.
Que Marie-Lou s'endort sous la neige. Carbonique de l'extincteur d'un incendie.
Et de retour sur Brisons la glace. Donc on avait réussi à parler de l'hiver norvégien et des différentes anecdotes qu'on pouvait avoir dessus. Et maintenant, on décide
d'appeler la police. Non
d'appeler la police.
Ça crée écho dans l'appart d'Emma.
Ouais, attends.
Mais c'est bon, ils sont passés. Ouais. Et bien, décidément, cette fois-ci, nous avons prévu d'aller moins haut et de parler de low-tech. C'est ça?
Et oui, parce que comme je parle tout le temps de nouvelles technologies, etc., j'ai décidé, que ça m'intéresse autant d'ailleurs, quels sont les domaines où justement la high-tech n'aura jamais sa place et ne peut pas nous remplacer ou remplacer cet artisanat. Donc voilà, quoi. Et puis aussi qu'il faut savoir coordonner, garder notre low-tech aussi pour pouvoir suivre. On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure quand
il n'y a plus de courant.
Quand il n'y a plus de courant, quand il n'y en a pas tout ça.
Ça me fait penser à plein de métiers qu'on a encore besoin. Tous ceux qui se travaillent dans la restauration de bâtiments publics, les anciennes églises, etc. Il manque ce savoir-faire.
Ouais. Moi, j'ai demandé à ChatGPT quels sont les métiers qui ne remplaceraient pas.
Okay. Ah ouais, et alors
ils me disent les artistes créatifs, les psychologues et la santé mentale. Okay. Oui, là je pense que n'importe qui n'aura jamais
les artistes
envie.
Créatifs, ça veut dire quoi? Enfin, dire que les artistes ne sont
créer
pas créatifs.
Des choses.
Okay. Bah, ça veut dire créer des choses. Ouais. On parle de peinture. Là, tu pourras jamais remplacer. Ouais. Enfin, maintenant, il y a plein d'applications, même en VR, tu peux sculpter digitalement, tu peux tout ça. Mais ça remplacera pas l'effet d'une sculpture en bronze là sous tes yeux, qui a dû être faite
à la main.
Travail
de la main.
Travail de la main. La peinture, c'est pareil, un assemblage de couleurs. L'IA fait des merveilles sur la photographie, mais en peinture, je pense pas.
Non, c'est clair.
Voilà.
Ouais, ok, dans ce sens-là, très bien.
Voilà, dans ce sens-là, les psychologues, c'est exactement la même chose. Ensuite, on a les enseignants, même si je pense qu'il y a beaucoup d'éducations qui vont pouvoir s'appuyer.
Moi, ce qui vient.
Je pense que ça remplace pas un prof, ça remplace pas ta maman qui t'aide à comprendre ça, un c'est problème clair. De maths.
Moi, il y a un truc qui me fait un peu peur et qui me fait un peu chier aussi, c'est que de plus en plus de cours se font à distance via Zoom. Ou des trucs comme ça, ou l'autre là, j'ai oublié.
Google Meet.
Mais c'est atroce. Enfin, je veux dire, pour avoir fait le lycée sous le Covid, tu ne suis absolument pas et t'as pas envie de suivre. Hein. Enfin, je veux dire, évidemment que t'as pas envie de suivre. Qu'est-ce que tu te fais chier à écouter quelqu'un qui parle à travers un ordinateur?
J'ai entendu parler de 30% d'engagement.
Ouais.
Mais pourquoi? 30%,
c'est pourquoi?
Sauf les gens qui ont vraiment cette discipline, les journalistes freelance qui sont habitués à être seuls.
C'est clair. Non, mais je veux dire, j'écoutais quand les cours m'intéressaient, mais. Je veux dire, j'ai du mal à rester concentré pendant longtemps en classe, malgré les efforts que je fais. Alors, derrière un ordinateur, c'était vraiment hyper difficile.
Surtout quand c'est du frontal, quoi.
Ouais,
quand
c'est ça.
Vraiment, j'écoute patiemment, sans réagir, c'est un peu dur.
Et en plus, moi, j'étais encadrée par mes parents, donc ça va, j'ai la chance, et puis même, ils sont profs, donc je respectais le professeur aussi en face, mais j'ai eu cette chance-là, mais je suis vraiment certaine que dans ma classe, on n'est vraiment pas beaucoup à avoir été comme ça, quoi. Et c'est le cas pour tout le monde. Donc moi, j'ai juste peur qu'il y ait trop de cours à distance à cause du Covid qui se mettent en place et que ça devienne un truc complètement normal et anodin, alors que non, ça l'est pas. Voilà.
Ouais, quoi d'autre ? Alors, on avait... toi, t'es protégé aussi, hein, les coachs sportifs et personnels. Bon, bah là, on aura toujours besoin de quelqu'un pour se coacher. Ouais. Dans les médecins, alors même si la médecine, face à l'high-tech, va faire des progrès, je pense, qui vont être considérables d'ici 10 ans, on va avoir des progrès, je pense, dans la médecine, sur la façon de reconnaître des maladies, de les trouver plus facilement, de pouvoir les soigner plus vite. Par contre, l'accompagnement d'un médecin, ça, ça sera absolument pas remplaçable, ni même une infirmière. Travailleurs sociaux aussi, voilà, ça sera un domaine qui ne vont pas être encore très remplacés.
Surtout qu'il y aura plus de chômeurs.
Voilà, pour Valentin, les ingénieurs créatifs, selon ChatGPT, ne seront pas remplacés.
Je suis pas très créatif.
Ingénieur.
Ouais, je suis pas créatif. Ouais.
Oui, mais l'innovation et la conception d'ingénierie, c'est créatif en fait.
Oui.
Donc voilà, donc ça sera, il va falloir penser futur et c'est pas forcément l'IA qui va vous l'apporter. Voilà, il y a les avocats aussi. Hein, on va pas pouvoir faire un procès avec des robots. Des experts en relations publiques. Les créateurs de contenu et les leaderships, hein, les patrons, les rois, les présidents de la République ne seront pas encore remplacés. Voilà.
Est-ce qu'ils seront influencés, par contre ?
Et évidemment, comme avec Jeanne-Sophie, tous les métiers artisanaux, hein, de la soufflerie de verre à la céramique.
À la boulangerie.
À la cuisine, la boulangerie.
Voilà. Je ne me rends pas compte si ces métiers sont encore promus. Est-ce qu'on en parle beaucoup dans la jeune génération ? Est-ce qu'on leur dit, bah, y a pas mal de métiers comme ça que tu peux faire si t'es pas à fond business ou à fond économie ou...
Ouais.
Parce que c'est quand même des métiers qui ont de l'avenir.
Bah, pour moi, je pense que c'est des métiers où t'as plus d'avenir que là, si on demandait à tous les gamins de savoir coder, ce qui est génial. Hein, il faut savoir coder, je pense.
Je vais être youtubeur.
À votre âge, vous devez tous savoir un peu coder à minimum.
Ah, moi, ça me fait peur. Hein, je ne comprends pas ce langage du tout.
Ouais, c'est une langue, hein, en fait.
Moi, ça bloque.
Mais plutôt que de demander, là, pour le coup, où l'IA va pouvoir... aide déjà énormément de développeurs et de codeurs. Ouais. Il serait plus judicieux d'apprendre à faire du pain.
Non, ça, je pense que pour répondre à ta question, Suzanne, je pense que oui, c'est encore promu. Peut-être qu'on ne se rend pas compte en fonction du milieu dans lequel tu es, mais en soi, oui, parce qu'il y a plein de personnes, il y a tellement de bacs pro possibles, imaginables en France, on a cette chance-là aussi. Donc je pense que oui, peut-être moins qu'avant, parce qu'il y a un désintérêt, mais l'intérêt reste quand même présent.
Parce que après, enfin là, tu parlais du lycée, que t'étais au lycée il y a pas longtemps. Enfin, regarde, enfin, je me rappelle mes années de collège. Enfin, regardons encore ce qui se passe au moment du choix entre le filière générale et filière professionnelle.
Ouais,
en fait, genre, on a toujours cette segmentation. Je crois que c'est pareil en Norvège, mais bon, t'es bon en cours, bah faut partir en général.
Ouais,
t'es pas bon, faut partir en professionnel. Et en fait, finalement, on passe à côté de vraiment du cœur du sujet qui est
quel
est
ça,
où que t'aimes faire en fait
sans le mieux.
Ouais, c'est ça.
Mais ça, c'est une histoire d'éducation aussi en France. Moi, j'ai le souvenir de
un stigma de
jamais assez bon pour rentrer dans l'école d'élite. Moi j'étais assez trop nulle en maths pour pouvoir faire Sciences Po. On me rabâchait en permanence que je ferais pas
Mais qu'est-ce que je peux
pour
faire
les maths.
Alors que j'étais super bonne en littéraire, etc. Et au lieu de me dire, ah bah tiens, deviens journaliste, fais quelque chose avec ça, le seul truc que je retiens, alors peut-être que c'est ma personnalité qui a fait ça, c'est que j'étais nulle en maths, que j'étais nulle là, et c'est pas des métiers que j'ai forcément regardé. Genre dans ma tête, on pouvait pas être journaliste si on n'avait pas fait Sciences Po.
Ouais.
Ce qui est faux.
Ouais, complètement. Mais ça, moi aussi, je l'ai appris par hasard. Hein. Je voulais faire Sciences Po aussi. Au final,
voilà, je l'ai appris beaucoup.
J'ai appris par hasard en voyant une petite école niche du sud de la France. Mais moi, j'avais un pote au lycée et au collège qui était super bon en pâtisserie. Vraiment, c'était génial. Et ses parents l'ont forcé à faire un bac général et à obtenir son bac au cas où.
Il y a plein d'histoires comme ça.
Ça allait pas marcher au cas où. Enfin, pour avoir un bac, quoi, pour pouvoir faire des études au cas où ça marchait pas. Mais
c'est quand même professionnalisant les bacs pro.
Ouais, mais moi, à l'inverse, j'avais un copain ultra bon en cours et très très fort en cuisine qui voulait faire chef. Là, pour le coup, ses parents l'ont mis en école hôtelière.
Bah, tant mieux, tu vois.
Une des meilleures de France.
Bah oui. Après, c'est parce que tu vas dans une des meilleures écoles de France, donc c'est plus stable. Enfin, c'est certain, sécuritaire, oui.
Oui, il y a un côté, mais après, c'est de la chance. Ouais, c'est encore mon côté français aussi, de là, de dire il a fait une école. Je veux dire, ah oui, une des meilleures. Voilà, non, mais on revient
non, c'est
exactement
vrai,
ce que je disais, alors qu'en fait, je suis sûre qu'il y a des tonnes d'écoles hôtelières
bien
qui
sûr.
Sont super.
L'essentiel, c'est ce que t'en fais après. De...
Voilà.
Mais voilà.
On peut être heureux sans être premier. Hein.
Exactement.
On peut être heureux
qui
sans
est
être
premier,
premier
ici. Qui était premier
les premiers seront les derniers.
Voilà.
Non, mais
et puis on peut être heureux sans trottinette électrique et à vélo.
Et sans Tesla.
Pour revenir à la techno. À la techno. pour revenir à la low-tech. Ouais. Se déplacer. Moi, je pense que c'est important de laisser toujours une place, justement, de ne pas être trop high-tech.
Oui. Oui.
Ça coûte moins cher.
Oui, déjà. Aussi.
Oui, ça coûte moins cher, c'est vrai aussi. Ouais. Du coup, peut-être c'est le moment de conclure l'émission. C'est,
oui,
c'est,
on restera sur cette conclusion. Croyez en vos rêves et.
Le lièvre.
Non, bah écoutez, la prochaine fois qu'on se retrouve, du coup, ça sera Björvika.
Très prochainement. Vous nous écouterez très prochainement sur les applications SoundCloud. On mettra tout sur les réseaux sociaux également. Merci d'avoir été autour de la table aujourd'hui. C'était cool.
Ouais. Merci à vous.
Ouais, merci
c'est
beaucoup.
Toujours un plaisir. Oui. Et on prend l'accent du
et
sud.
On prend
la
fin.
Quand on parle de la neige.
Quand on parle de la neige.
Quand on parle du froid, c'est le sud.
Voilà. Alors moi,
et on se quitte avec quoi?
Alors on va se quitter avec Sondre Lerche, qui est donc un chanteur norvégien. Plutôt folk, plutôt dream pop, etc. Mais là, comme je parlais low tech, eh ben, on finit avec une reprise simple à la guitare de Wrecking Ball de Miley Cyrus.
Ah, c'est génial.
Ok, sympa.
Ciao.
Ciao.
Salut. I put you high up in the sky. Now you're not coming down. I slowly turned you, let me burn. Now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always love you.